Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal, suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de la voix de l'Indonésie, les informations. La cible de l'Indonésie sans déchets en 2020 peut être atteinte en renforçant la banque des déchets. L'Indonésie doit apprendre l'histoire économique dans le temps passé pour développer la croissance économique nationale. Le président a affirmé qu'une nouvelle agence n'était pas nécessaire pour résoudre les crimes cybernétiques et l'Indonésie reporte l'exportation de gaz naturel. Voici les informations complètes. Le gouvernement indonésien a lancé l'Indonésie sans déchets en 2020. Le directeur exécutif de l'organisation non gouvernementale Indonesia Budget Center, Roy Salam, a déclaré que la cible du gouvernement pouvait être atteinte avec l'approche de renforcement de la banque des déchets. La gestion des déchets devrait commencer à partir de l'amont, de sorte que les résidus dans les décharges peuvent être réduits. Dans une conférence de presse tenue mardi, le 20 septembre à Jakarta, il a expliqué « La banque des déchets est un programme qui devrait être favorisé. » Par exemple, le gouvernement provincial de Jakarta a fourni un budget de 2,52 milliards roupias pour le coût de la formation des gestionnaires, la mise en place de la banque des déchets, la fourniture des installations, l'encadrement et la surveillance, mais cette somme ne suffit pas de développer et de renforcer la banque des déchets. En fait, le renforcement du budget pourrait être un moyen de renforcer une banque des déchets.
Harapannya mereka itu bisa didukung dari Pemprov.
L'appui budgétaire du gouvernement provincial est attendu. Il serait sous forme de subvention ou de prêt. S'ils veulent donner la priorité à la banque des déchets, ils devraient la mettre en place comme l'organisme de service public. Si l'invitation est seulement une sollicitation sans soutien, le programme sans déchets en 2020 échouera. Roy Salam a expliqué en termes de quantité, chaque année, le nombre de banques des déchets a augmenté, mais pas avec la qualité. Le directeur exécutif national de Walhi, Khalissa Khalid, à la même occasion a dit que les politiques de droit et de gestion des déchets étaient très bonnes. Cependant, Khalissa a souligné plastique comme les plus grands déchets en Indonésie. Le gouvernement doit revoir la politique d'importation de matières premières plastiques. Jusqu'à présent, en Indonésie, l'importation en plastique est libre de la taxe d'importation. Cela conduit à la quantité incontrôlée des déchets en plastique qui ont un impact sur l'environnement. La réflexion économique dans les premiers jours du gouvernement indonésien fournira de précieuses leçons pour décider une question liée à la politique économique nationale. Cela a été déclaré par l'ancien ministre indonésien du Commerce, Madame Marie-Elka Pangestu, lors d'un dialogue concernant réflexion politique sur la pauvreté depuis le nouvel ordre et les implications pour les efforts visant à stimuler la croissance économique de plus en plus inclusive, qui a eu lieu au bureau de l'Institut indonésien des sciences LIPI à Jakarta mardi. L'histoire économique est importante afin de réfléchir et de regarder ce que nous pouvons apprendre de l'histoire. Il est une précieuse leçon sur l'histoire économique indonésienne nous réfléchissons sur les politiques commerciales depuis 50 ans. Si nous parlons de la politique commerciale liée à la concurrence des affaires, bien sûr, comme le début de l'histoire de l'économie indonésienne, dans un premier temps, l'objectif de la politique commerciale est d'imposer une taxe sur les importations ou les exportations pour générer des revenus de l'État. Parce que depuis le début du développement économique, le pays n'a pas eu la capacité de percevoir l'impôt sur le revenu. Marie Pangestu a également déclaré que, basé sur le développement économique du monde international actuellement, l'Indonésie devait être en mesure de maintenir la stabilité de l'économie nationale pour que la croissance économique pour la communauté puisse être sentie. Le président indonésien Joko Widodo a dit que le gouvernement n'a pas besoin d'établir une nouvelle institution pour faire face à la cybercriminalité croissante. C'est ce qu'a affirmé le président dans une réunion du cabinet mardi. Selon le président, basé sur l'information qu'il avait en 2013, l'Indonésie était devenue la deuxième cible de cybercriminalité dans le monde entier. Il a dit qu'en 2014 et 2015, la cybercriminalité indonésienne a augmenté de façon spectaculaire à peu près 400%. La majorité des attaques étaient sur le secteur de e-commerce. Selon lui, l'émergence de la cybercriminalité est devenue un nouveau défi en termes de l'état de préparation du gouvernement. De plus, le gouvernement veut développer une économie numérique nationale. Concernant la réforme de gestion de l'appareil d'État civil ou ASN, le président a déclaré que l'ASN devrait être en mesure de fournir des services efficaces. Il a demandé au ministre de la Réforme administrative et de la bureaucratie, Asman Abnur, de prendre des mesures concrètes pour réformer la bureaucratie. Vous êtes toujours à l'écoute des informations de la Voix de l'Indonésie, Jakarta. Le maire de Makassar, Mohamed Ramdan Pomanto, et des hommes d'affaires français qui sont intéressés à investir dans la ville de Makassar ont discuté des programmes du gouvernement local, y compris Smart City. La France est connue comme un pays qui dispose d'une infrastructure de Smart City, la planification urbaine et l'atténuation des catastrophes basées sur la technologie. Ils sont intéressés de réaliser certains programmes de Makassar, a déclaré Pomanto à Makassar mardi. Les hommes d'affaires français ont apporté par Engie Ineo ou en février 2016, déjà établi un accord sur la coopération dans le domaine des systèmes de sécurité de la ville. Engie Ineo est l'une des plus grandes entreprises en France engagées dans le domaine de l'ingénierie électrique, l'information et les systèmes de communication. Le protocole d'entente entre les deux parties a été signé par le maire de Makassar, Mohamed Ramdan Pomanto, et le directeur général de Engie Ineo, Gaëtan Texier. L'exécuteur de la tâche du ministre de l'Énergie et des Sources Minérales, Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré qu'actuellement, le gouvernement rapporte provisoirement l'exportation du gaz. L'exportation de gaz sera reportée à certains pays voisins, sauf dans les pays qui ont déjà des engagements préalables. Luhut Panjaitan a affirmé mardi à Jakarta que le gouvernement améliorerait le système de distribution de gaz dans le pays, afin que le pays puisse bénéficier davantage et de remplir les besoins nationaux. Il a confirmé que l'État va utiliser le gaz de Natuna et la gestion de l'amont vers l'aval est maximisée. Plus tard, la production de gaz à partir de Natuna sera transportée à Java, Sumatra et Kalimantan pour répondre aux besoins nationaux. Notre dernière information, le Global Green Growth Institute, GGI soutient l'objectif du gouvernement sur la réalisation de mélange d'une nouvelle énergie et une énergie renouvelable nationale à 19% via le programme de la croissance économique verte dans l'industrie indonésienne. Pour soutenir la cible, le GGI établit une coopération avec le gouvernement indonésien à travers la mise en œuvre du développement vert du GGI Green Growth qui était commencé en 2013, a déclaré le représentant du GGI Indonésia Anna van Pandenburg au Congrès international d'une nouvelle énergie et une énergie renouvelable à Jakarta mardi. Anna a ajouté que le programme de croissance de l'économie verte du gouvernement indonésien couvre dans la planification économique et le développement les changements de la technologie respectueuse à l'environnement, d'encourager l'investissement en capital respectueux de l'environnement ainsi que la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Auditeurs et auditrices, c'était les informations. Bonsoir auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Aujourd'hui, le commentaire face à l'acte de la Corée du Nord. Les pays voisins de la Corée du Nord s'inquiètent sur les terres des missiles balistiques qui ont mené régulièrement sur la surface terrestrielle et par la mer. Il est raisonnable si la Corée du Sud et le Japon, y compris les États-Unis, s'inquiètent parce que la capacité de la Corée du Nord à lancer les missiles balistiques commence à montrer des résultats. Cela veut dire que la distance du lancement des missiles balistiques sont plus loin. Pour réduire le taux de la capacité de la Corée du Nord, les États-Unis ont approché la République populaire de Chine. Lundi, le président Obama a rencontré le premier ministre de Chine à New York. Ils ont convenu de renforcer la coopération après l'essai nucléaire de la Corée du Nord il y a 2 semaines. Reuters a rapporté mardi. La coopération a été réalisée par l'intermédiaire du forum officiel du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres canaux possibles. Les deux pays ont convenu d'orienter les objectifs financiers d'un grand groupe de la Chine, Liaoning Hongxiang, qui est pensé à aider le programme nucléaire nord-coréen. En outre, les États-Unis et la Chine ont commencé à discuter des nouvelles sanctions pour la Corée du Nord après l'essai nucléaire. Un rapport de l'agence de France Presse, AFP, mardi, citant l'agence de presse de la Corée du Nord, KCNA, a révélé que la Corée du Nord avait testé avec succès un puissant moteur de fusée. Le test a été réalisé à la base de lancement des satellites de Sohae pour soutenir le développement des programmes d'armes nucléaires. Il est dit qu'au 68e anniversaire du Parti des travailleurs, le 10 octobre, la Corée du Nord va lancer un satellite. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a une ambition. La Corée du Nord possède un satellite géostationnaire dans les prochaines années. Auparavant, dans la première semaine de septembre, la Corée du Nord a également tiré 3 missiles balistiques dans la mer du Japon. Cela a été fait lorsque les dirigeants du groupe 20 se sont réunis lors d'un sommet en Chine. 2 semaines plus tôt, la Corée du Nord avait tiré un missile balistique à partir d'un sous-marin. En fait, il est naturel si la Corée du Sud et le Japon et même les États-Unis sont préoccupés par l'amélioration des capacités des missiles de la Corée du Nord. D'autre part, les relations entre la Corée du Nord et son allié de Pékin sont aussi menacées d'être perturbées à cause de cette question. L'Indonésie, qui a des liens relativement étroits avec la Corée du Nord, ne devrait pas rester silencieux de voir les essais de missiles. La longue portée des missiles tirés par la Corée du Nord est plus loin. Cela signifie que même l'Indonésie peut également être inclus dans la gamme de missiles du pays. À présent, l'Indonésie, en tant que pays ami, doit jouer un rôle encourager la Corée du Nord de respecter les sanctions de l'ONU et d'utiliser des capacités nucléaires à des fins pacifiques. Auditeurs et auditrices, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
16e lantenne, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement « Malte a gagné l'indépendance ». Malte est un état insulaire d'Europe situé au milieu de la mer Méditerranée. Il se compose d'un archipel de 8 îles dont 4 sont habitées, situées à 93 km au sud de la Sicile. Grâce à son emplacement stratégique, Malte a été colonisée par différents souverains au cours des siècles. En 1789, Malte a été colonisée par la France et peu de temps, la Grande-Bretagne a dominé ce pays. En 1921, la Grande-Bretagne a accordé le statut d'autonomie à Malte, mais le peuple maltais veut l'indépendance totale. En 1958, le mouvement de résistance du peuple de Malte était plus fort. Enfin, ce pays a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne le 21 septembre 1964. L'autre information est sur la Journée internationale de la paix. Chaque année, à travers le monde, on célèbre la Journée internationale de la paix le 21 septembre. Cette commémoration est dédiée à la paix mondiale et en particulier pour la fin de la guerre et de la violence. La Journée internationale de la paix a été célébrée la première fois en 1982 et défendue par de nombreux pays, les groupes politiques, les militaires et la société. En 2013, pour la première fois, cette journée a été consacrée par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation à la paix comme un moyen de prévention de réduire la guerre en cours. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec le séisme qui a frappé Taïwan le 21 septembre 1999. Un séisme de magnitude 7,6 sur l'échelle de Richter a frappé Taïwan et provoqué plus de 2416 morts et plus de 11441 blessés. Le séisme s'est passé à Chichi le 21 septembre 1999. L'épicentre était situé dans la ligne de 23,85 degrés de latitude nord et la ligne de 120,82 degrés de ligne de longitude est, 9,2 km sud-ouest du lac de San Moon. La profondeur de ce tremblement de terre était de 8,0 km. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point sur l'environnement.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir à tous, voici la mise au point sur l'environnement ayant pour le titre. La ministre indonésienne de la mer et de la pêche a reçu le prix de WWF. L'Organisation mondiale de la conservation de l'environnement, WWF, a conféré Leader for Living Planet Awards à la ministre indonésienne de la mer et de la pêche, Madame Susi Pujiastuti. Le prix a été décerné directement par le président du WWF international, Yolanda Kakabadse, à la ministre Susi Pujiastuti au bâtiment de WWF à Washington DC aux États-Unis vendredi 16 septembre, heure locale. Coïncidant avec notre conférence sur l'océan organisée par le ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Ce prix prestigieux est donné par WWF International grâce à l'engagement et la cohérence de Madame Susi dans le maintien de la souveraineté et de la durabilité des ressources marines et de la pêche en Indonésie à travers des politiques d'éradication des pratiques de la pêche illicite, non réglementée et non déclarée. En outre, la ministre Susi est également considérée comme très préoccupée par la conservation de la biodiversité marine. En moins de 2 ans, elle a créé environ 1 million d'hectares de zones marines protégées comme zone de la protection de la biodiversité marine. Dans un communiqué reçu par cnnindonésie.com samedi le 17 septembre, le président de WWF, Yolanda Kakabadse, a dit « Susi Pujiastuti a consacré son temps pour lutter contre les pratiques de pêche illégales, encourager la gestion durable de la pêche basée sur la science et renforcer la santé des océans en élargissant le réseau des aires marines protégées. Elle est une figure qui se bat pour protéger la santé des océans de l'Indonésie. » Lors de la réception du prix de WWF, la ministre Susi Pujiastuti a dit « Après l'Indonésie souverain plein, l'Indonésie, avec le développement de la science et de la technologie, sera en mesure de gérer les ressources naturelles d'une manière efficace, efficiente et durable. Il a également dit qu'elle continuerait à aider à améliorer le bien-être des pêcheurs nationaux. Si la souveraineté et la durabilité ont été fermées, le bien-être de la pêche à petite échelle sera bientôt réalisé. Leaders for Living est un prix donné par WWF International aux personnes qui démontrent la contribution à travers l'engagement et les efforts extraordinaires pour sauver la planète et les ressources naturelles pour assurer une utilisation durable. Les lauréats de ce prix peuvent provenir de dirigeants au sein du gouvernement, des privés ou des organisations non gouvernementales. Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, au moins 100 dirigeants mondiaux de diverses organisations ont obtenu ce prix, entre autres l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, le ministre norvégien de pêche, le vice-premier ministre de la Chine. La figure de l'Indonésie qui a obtenu le prix similaire était l'ancien ministre de l'Environnement, Dr. Emil Salim. Chers auditeurs, c'était la mise au point sur l'environnement de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Le gouvernement indonésien a lancé l'Indonésie sans déchets en 2020. Le directeur exécutif de l'organisation non gouvernementale Indonesia Budget Center, Roy Salam, a déclaré que la cible du gouvernement pouvait être atteinte avec l'approche de renforcement de la banque des déchets. La gestion des déchets devrait commencer à partir de l'amont, de sorte que les résidus dans les décharges peuvent être réduits. Dans une conférence de presse tenue mardi, le 20 septembre à Jakarta, il a expliqué « La banque des déchets est un programme qui devrait être favorisé ». Par exemple, le gouvernement provincial de Jakarta a fourni un budget de 2,52 milliards roupias pour le coût de la formation des gestionnaires, la mise en place de la banque des déchets, la fourniture des installations, l'encadrement et la surveillance. Mais cette somme ne suffit pas de développer et de renforcer la banque des déchets. En fait, le renforcement du budget pourrait être un moyen de renforcer une banque des déchets. L'appui budgétaire du gouvernement provincial est attendu. Il serait sous forme de subventions ou de prêts. S'ils veulent donner la priorité à la banque des déchets, ils devraient la mettre en place comme l'organisme de service public. Si l'invitation est seulement une sollicitation sans soutien, le programme sans déchets en 2020 échouera. Roy Salam a expliqué en termes de quantité, chaque année, le nombre de banques des déchets a augmenté, mais pas avec la qualité. Le directeur exécutif national de Walhi, Khalissa Khalid, à la même occasion a dit que les politiques de droit et de gestion des déchets étaient très bonnes. Cependant, Khalissa a souligné plastique comme les plus grands déchets en Indonésie. Le gouvernement doit revoir la politique d'importation de matières premières plastiques. Jusqu'à présent, en Indonésie, l'importation en plastique est libre de la taxe d'importation. Cela conduit à la quantité incontrôlée des déchets en plastique qui ont un impact sur l'environnement. La réflexion économique dans les premiers jours du gouvernement indonésien fournira de précieuses leçons pour décider une question liée à la politique économique nationale. Cela a été déclaré par l'ancien ministre indonésien du Commerce, Madame Marie Elka Pangestu, lors d'un dialogue concernant réflexion politique sur la pauvreté depuis le nouvel ordre et les implications pour les efforts visant à stimuler la croissance économique de plus en plus inclusive, qui a eu lieu au bureau de l'Institut indonésien des sciences, LIPI, à Jakarta, mardi. L'histoire économique est importante afin de réfléchir et de regarder ce que nous pouvons apprendre de l'histoire. Il est une précieuse leçon sur l'histoire économique indonésienne. Nous réfléchissons sur les politiques commerciales depuis 50 ans. Si nous parlons de la politique commerciale liée à la concurrence des affaires, bien sûr, comme le début de l'histoire de l'économie indonésienne, dans un premier temps, l'objectif de la politique commerciale est d'imposer une taxe sur les importations ou les exportations pour générer des revenus de l'État. Parce que depuis le début du développement économique, le pays n'a pas eu la capacité de percevoir l'impôt sur le revenu. Marie Pangestu a également déclaré que, basé sur le développement économique du monde international actuellement, l'Indonésie devait être en mesure de maintenir la stabilité de l'économie nationale pour que la croissance économique pour la communauté puisse être sentie. Le président indonésien Joko Widodo a dit que le gouvernement n'a pas besoin d'établir une nouvelle institution pour faire face à la cybercriminalité croissante. C'est ce qu'a affirmé le président dans une réunion du cabinet mardi. Selon le président, basé sur l'information qu'il avait en 2013, l'Indonésie était devenue la deuxième cible de cybercriminalité dans le monde entier. Il a dit qu'en 2014 et 2015, la cybercriminalité en Indonésie a augmenté de façon spectaculaire, à peu près 400%. La majorité des attaques étaient sur le secteur de e-commerce. Selon lui, l'émergence de la cybercriminalité est devenue un nouveau défi en termes de l'état de préparation du gouvernement. De plus, le gouvernement veut développer une économie numérique nationale. Concernant la réforme de gestion de l'appareil d'état civil ou ASN, le président a déclaré que l'ASN devrait être en mesure de fournir des services efficaces. Il a demandé au ministre de la Réforme administrative et de la bureaucratie, Asman Abnur, de prendre des mesures concrètes pour réformer la bureaucratie. Vous êtes toujours à l'écoute des informations de la Voix de l'Indonésie, Jakarta. Le maire de Makassar, Mohamed Ramdan Pomanto, et des hommes d'affaires français qui sont intéressés à investir dans la ville de Makassar ont discuté des programmes du gouvernement local, y compris Smart City. La France est connue comme un pays qui dispose d'une infrastructure de Smart City, la planification urbaine et l'atténuation des catastrophes basées sur la technologie. Ils sont intéressés de réaliser certains programmes de Makassar, a déclaré Pomanto à Makassar mardi. Les hommes d'affaires français ont apporté par Engie Ineo ou en février 2016, déjà établi un accord sur la coopération dans le domaine des systèmes de sécurité de la ville. Engie Ineo est l'une des plus grandes entreprises en France engagées dans le domaine de l'ingénierie électrique, l'information et les systèmes de communication. Le protocole d'entente entre les deux parties a été signé par le maire de Makassar, Mohamed Ramdan Pomanto, et le directeur général de Engie Ineo, Gaëtan Texier. L'exécuteur de la tâche du ministre de l'Énergie et des Sources Minérales, Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré qu'actuellement, le gouvernement rapporte provisoirement l'exportation du gaz. L'exportation de gaz sera reportée à certains pays voisins, sauf dans les pays qui ont déjà des engagements préalables. Luhut Panjaitan a affirmé mardi à Jakarta que le gouvernement améliorerait le système de distribution de gaz dans le pays, afin que le pays puisse bénéficier davantage et de remplir les besoins nationaux. Il a confirmé que l'État va utiliser le gaz de Natuna et la gestion de l'amont vers l'aval est maximisée. Plus tard, la production de gaz à partir de Natuna sera transportée à Java, Sumatra et Kalimantan pour répondre aux besoins nationaux. Notre dernière information, le Global Green Growth Institute, GGI soutient l'objectif du gouvernement sur la réalisation de mélange d'une nouvelle énergie et une énergie renouvelable nationale à 19% via le programme de la croissance économique verte dans l'industrie indonésienne. Pour soutenir la cible, le GGI établit une coopération avec le gouvernement indonésien à travers la mise en œuvre du développement vert du GGI Green Growth, qui était commencé en 2013, a déclaré le représentant du GGI Indonesia, Anafan Pandenburg, au Congrès international d'une nouvelle énergie et une énergie renouvelable à Jakarta mardi. Anna a ajouté que le programme de croissance de l'économie verte du gouvernement indonésien couvre dans la planification économique et le développement les changements de la technologie respectueuse à l'environnement, d'encourager l'investissement en capital respectueux de l'environnement ainsi que la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Auditeurs et auditrices, c'était les informations.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditrices et chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie. Pour la rubrique suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec Apprendre l'Indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans le magazine culturel. Cette fois, nous vous invitons à voyager à Lombok, la province de Nusa Tenggara Ouest. Alors, restez toujours avec nous sur La Voix de l'Indonésie, le service international de la RRI. Outre les écoutes, vous pouvez aussi écouter nos émissions sur www.voi.co.id. Chers auditeurs, diverses régions qui offrent la belle nature sont réparties en Indonésie. Chaque région a beaucoup d'endroits qui offrent la beauté naturelle différente, comme l'île de Lombok en province de Nusa Tenggara Ouest. Outre la plage, il y a beaucoup d'autres objets de tourisme sur l'île de Lombok. Parmi les nombreux objets de tourisme sur l'île de Lombok, il y a plusieurs objets qui ont été conservés depuis le passé. L'un d'eux est la cascade Otakokok Joben. Chers auditeurs, le nom de cette cascade provient de la langue Sasak qui est la langue locale de Lombok. Dans le langage Sasak, Otak signifie tête, Kokok signifie rivière, tandis que Joben est un nom de la région. Donc, la cascade Otakokok Joben est l'eau naturelle parce que l'eau provient directement de source du Mont Rinjani. Cette cascade est située à Lunggu, le village Montong Betok, sous-communauté Montong Gading, Lombok de l'Est. De la ville de Mataram, la distance est environ 50 km. La cascade Otakokok Joben a environ 5 mètres de haut. Son nom sort de la racine de l'arbre banjur qui a des centaines d'années. Cet objet touristique a un mythe qui est cru par la population locale. Il croit que son eau peut guérir toutes sortes de maladies. Si l'eau atteint le crops d'une personne, l'eau change de couleur pour être blanc comme le lait. Cela signifie que cette personne a une maladie. Si une personne touchée par la maladie, elle continue de verser l'eau de la cascade sur son corps, elle sera guérie. La cascade Otakokok Joben est encore préservée jusqu'à présent. Ce site touristique fournit également des installations qui peuvent être appréciées. L'une de ces installations est une piscine qui se trouve à la forêt protégée. Il y a deux piscines pour les adultes et les enfants. Le lieu de repos dans cet objectif touristique est situé autour de la piscine et la forêt protégée. Ainsi, l'atmosphère et la beauté naturelle peuvent être appréciées par les visiteurs pendant qu'ils étaient là. Chers auditeurs et auditrices, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « La cascade Otakokok Joben ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Pour apprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme « Allez, apprendre l'indonésien ».
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, nous revenons dans la rubrique « Apprendre l'indonésien » qui vous introduit le vocabulaire indonésien et l'utilisation dans une conversation. Le sujet aujourd'hui est hobby olahraga ou en français on dit le loisir sportif. Allons-y. Je vais tout d'abord introduire des vocabulaires et des expressions reliant au thème d'aujourd'hui. Je vais prononcer chaque mot deux fois et vous le répétez après moi. Hola, raga. Hola, raga. En français, le sport. Suka. Suka. En français, aimer. Setiap pagi. Setiap pagi. En français, chaque matin. Jogging. Jogging. En français, le jogging. Agar. Agar. En français, pour que. Tetap sehat. Tetap sehat. En français, rester en bonne santé. Berenang. Berenang. En français, nager. Main basket. Main basket. En français, jouer au basket. Hobby. Hobby. En français, le loisir. Bermain sepeda. Bermain sepeda. En français, faire du vélo. Tidak sibuk. Tidak sibuk. En français, ne pas être occupé. Main tennis. Main tennis. En français, jouer au tennis. Punya banyak waktu. Punya banyak waktu. En français, avoir beaucoup de temps libre. Main bola. Main bola. En français, jouer au football. Teman-teman. Teman-teman. En français, des amis. Bien, maintenant on va mettre ces vocabulaires et expressions dans une conversation intitulée « Hobby olahraga » ou en français « Le loisir sportif ». Comme d'habitude, je vais prononcer lentement la conversation deux fois par phrase et vous allez donc la suivre après moi. Cette conversation est entre Roby A et Malik B au bureau. A. Kamu suka berolahraga, Malik? Kamu suka berolahraga, Malik? En français. Tu aimes le sport, Malik? B. Setiap pagi saya jogging agar tetap sehat. Setiap pagi saya jogging agar tetap sehat. En français. Je fais du jogging chaque matin pour que je reste toujours en bonne santé. A. Saya suka sekali berenang dan bermain basket. Saya suka sekali berenang dan bermain basket. En français, j'aime beaucoup nager et jouer au basket. B. Saya lebih memilih bermain sepeda daripada bermain basket. Saya lebih memilih bermain sepeda daripada bermain basket. En français, je préfère faire du vélo que jouer au basket. A. Ketika tidak sibuk, saya bermain tenis. Ketika tidak sibuk, saya bermain tenis. En français, quand je ne suis pas occupé, je joue au tennis. B. Saya saat punya banyak waktu, saya bermain bola bersama teman-teman. Saya saat punya banyak waktu, saya bermain bola bersama teman-teman. En français, quand j'ai beaucoup de temps libre, je joue au football avec des amis. A. Baiklah, hobi kita sama, berolahraga. Baiklah, hobi kita sama, berolahraga. En français, donc, nous aimons le même loisir, c'est le loisir sportif. Voilà cette édition du programme Apprendre l'indonésien. Espérons que cette édition soit utile pour ceux parmi vous qui veulent savoir plus la langue indonésienne. Nous vous reverrons la prochaine fois avec un sujet différent. Je vous remercie de votre attention. Au revoir. Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis, La Voix de l'Indonésie, dans quatre coins du monde, voici le magazine de musique édition de mercredi. Et pour ce soir, on présente le chanteur qui sont célèbres aux années 90, Ita Purnamasari et Sandra Tobing. Ces chanteurs ont présenté lors de la cérémonie légendaire à Radio République Indonésia récemment. Vous avez, outre de leur belle voix, ils sont doués au stage pour animer les spectateurs. Et, chers auditeurs, auditeurs ou chers amis, pour commencer notre rencontre, allez d'abord écouter la chanson « Cintaku Padamu » chantée par Ita Purnamasari. Bonne écoute.
Takkan berubah, walau
Chers amis, vous venez d'écouter la chanson Cintaku Padamu de Ita Purnamasari. Et vous savez, on n'entend pas la différence que l'ancienne chanson qui a publié en 1999 avec tout à l'heure vous avez écouté. Sa performance est pareille qu'avant. Elle est encore jeune, bien sûr, et toujours belle. Outre Ita Purnamasari, il y a aussi Sandra Tobing, dont la carrière est commencée à propos de concours de stars RRI et TVRI aux années 80. Bien qu'il y ait 53 ans, Sandra Tobing est toujours en bon état. Bon, chers amis, allez encore écouter la chanson de Sandra Tobing intitulée Nuansa Kasih. Bonne écoute.
Daun-daun berguguran, namun cinta kita tetap kan bersatu dalam suka dan duka bersama. Cintaku segalanya pasti semakin cerah kala harapan searah secita kesempatan dan waktunya akan datang tuh menjalin bahagia.
Chers amis, vous venez d'écouter la chanson de Sandra Tobing, Nuansa Kasih. Et vous écoutez toujours le magazine de musique édition de mercredi. Bien que ce chanteur était connu aux années 90, mais jusqu'à présent, ils peuvent garder leur état et leur voix. Si bien que ses fans se passionnent toujours pour eux. Bon, chers amis, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde, c'était le magazine de Pelangi Nada ou magazine de musique. Et avant de vous quitter, écoutez encore deux dernières chansons de Irta Purnamasari, intitulées Sanggupkah et Satu Kata. Merci de votre attention et fidélité. Bonne écoute et au revoir.
Hingga aku ingin jumpa.
c'est toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.